personne, et Ash-Shanqiti, rahimahullah, il a cité deux récits. Premier récit, il explique le cas d'un voleur. C'est une histoire, il a dit, ça doit être récent, parce que Ash-Shanqiti, rahimahullah, est décédé il n'y a pas longtemps. Et donc, il dit qu'on l'a raconté cette histoire, donc ça doit remonter à pas trop longtemps. Il dit qu'il y avait un voleur, qui, en général, ne raconte pas d'histoire. Parce que j'aime pas les histoires. Tant qu'il n'y a pas de sanad, on ne raconte pas. S'il y a une chaîne de narration, on connaît que ça, c'est digne. Ça, c'est haq, on sait. Parce que les histoires, on raconte trop. Parfois, des gens racontent des histoires et puis on va n'importe où, de n'importe quelle façon. Les histoires ne sont pas vérifiées ou les histoires sont amplifiées. Et souvent, les histoires discréditent la religion. Souvent, les histoires discréditent pas quelqu'un qui ne fréquente pas trop la Madinah. Il entend son histoire et dit, ah, c'est pas possible. Quand on raconte des histoires vraiment à dormir debout, des trucs inconcevables et tout. Donc, les histoires, c'est une bonne chose, mais à partir du moment où on est sûr. Là, ce que je te raconte, c'est Shamtika Rahmanullah qui a écrit de sa main. Et s'il a écrit de sa main, c'est que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Il dit qu'il y avait un voleur, donc, qui volait beaucoup, et il a fait fortune avec le vol, et à un moment donné, il s'est arrêté de voler par honte, pas par crainte d'Allah, haya ou min haya am min an-nas, parce qu'il avait honte. Les gens, ils savaient, donc il avait honte, à un moment donné, il s'est arrêté de voler. Mais, comme il avait passé l'essentiel de son temps dedans, c'est-à-dire que son cœur était attaché au vol. Tout ce qui est haram, il aimait, et quand quelque chose de halal venait, il ne pouvait pas supporter. Il dit que un jour, il était devenu âgé, il avait beaucoup d'argent, argent haram, bien sûr. Il est devenu âgé, et regardez comment le cœur reste attaché au péché. Il a appelé quelqu'un, il dit, je te donne l'argent, allez voler du fruit dans le jardin du voisin. Et il a l'argent, il peut aller acheter, il ne peut pas. Il a volé toute sa vie. Pour lui voler, c'est une seconde nature. Il donne à la personne l'argent, et dit, ça c'est comme en échange de ton service, allez voler les fruits dans le jardin du voisin, amen, je mange. Alors il dit que la personne était d'accord. Et à partir, la personne a fait un demi-tour de la maison pour que la personne croit qu'il est parti. Et puis il le ramène les fruits. Il le ramène les fruits, il dit voilà. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'a pas volé. Il a pris les fruits dans le jardin de la personne lui-même. Le bourgeois est riche, il a les fruits chez lui. Il a l'argent dans les poches, mais il a toujours vécu du vol. Il ne peut pas se permettre de ne pas voler. Il a l'argent, il peut acheter au bazar, ou il peut dire, allez, casse fruit dans mon cou, amène-lui, mange. Il dit, non, allez, vole le fruit du voisin, amène-lui, mange. Alors, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il a parti casser les fruits dans la cour de la personne même. Alors, maintenant, il amène les fruits, la personne mange. La personne, il dit, voilà, il goûte, il dit, laisse fihi ta'matul masrouq. Il a dit, je ne retrouve pas le goût d'habitude dedans. Il a dit, je ne trouve pas le goût du vol. Ça, ce n'est pas un fruit haram, ça. Le fruit là, les halal, ça a un goût bizarre. Elle dit que je peux pas. Elle dit, mais aïna t'a établi. Elle dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Il a dit que j'ai pris dans ton propre jardin. Après, elle a dit, ala tastahi. Il a dit, tu n'as pas honte, tu as l'argent, tu as les fruits, et tu me demandes d'aller voler. Après, la personne a compris, il a eu honte. Il s'était déjà racheté un peu, il s'était arrêté de voler parce qu'il avait honte des gens. Et là, rien que ça devient une seconde nature. Là, on comprend, ça illustre à être passé par. C'est une histoire en relation avec. Il dit, face à lui, c'est roulé le reste là. Qu'il plonge, Allah il laisse la personne plonger et ça devient une seconde nature. Il ne peut plus faire le halal. Le haram devient sa vie. Il aime le haram et il ne peut vivre qu'avec le haram. Il dit à l'opposé, une personne qu'Allah choisit et qu'Allah lui donne tawfiq, fasan yassiru li yusra, et il donne l'exemple d'Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qu'une fois a demandé à un enfant de l'amener quelque chose, un peu de lait à boire. Et l'enfant l'a amené de lait, et il goûte le lait et il trouve qu'il y a un goût anormal. Pas que le lait était gâté, il trouve qu'il y a un goût anormal et il dit à l'enfant, min aïna hada. Il dit, où est-ce que tu as eu ce lait? Il dit, marantu ala iblis sadaqa fa halibu li minha wa ha huada. Il dit que je suis parti à un endroit, les gens étaient en train de distribuer le lait pour sadaqa. Et je lui ai demandé un petit peu, et ça c'est le lait de sadaqa. Et Omar, lorsqu'il a entendu que ça, et il ne pouvait pas prendre sadaqa, lorsqu'il a entendu que c'est le lait de sadaqa, il a mis ses doigts dans sa gorge et il a vomi volontairement pour que ce lait haram pour lui sorte de son corps. Et là, Shankhaiti, rahimahullah, dit, regardez comment c'est une seconde nature. Quelqu'un qui est dans le droit chemin, il sent le haram. Quand quelque chose est douteux, il connaît qu'il y a un problème et il s'éloigne. Et quand quelqu'un vit dans le haram, il ne peut aimer que le haram. Et il a dit que c'est exactement comme une personne qui a une profession. Et là, vous regardez, c'est un exemple que le professeur qui nous dit toujours. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de bijouterie. Mais à Madina, on a voir, mashallah, en face de Haram, il y a 100 mètres de bijouterie. Quoi qu'ils ont beaucoup cassé maintenant. Mais il y a pas au moins 30 magasins de bijoux. Ce n'est pas des petits magasins comme ici, hein, c'est des grands magasins. Et c'est pas comme ici. Si vous vendez des bijouteries, toujours si vous voyez quelques bijoux. Là-bas, vous ne pouvez même pas garder les yeux ouverts. Il y a de l'eau partout. Partout, ça reflète dans les yeux. Faites, on ne va pas expliquer tout ça. Et le professeur disait que prenez un bijou doré qui est en toc, mais nettoyez-le bien, faites-le briller et déposez sur le comptoir de ce bijoutier et vous lui demandez, vous lui dites que vous voulez le vendre pour acheter un bijou. Ça c'est déjà arrivé, ça. Par exemple, vous avez des vieux bijoux, vous allez voir le bijoutier, vous dites, je vais acheter tel bijou. Vous lui donnez les anciens bijoux et le massa, c'est ainsi. Il vous donne l'argent, maintenant les bijoux, il dit, le bijou vaut 1000 euros. Il vous donne 1000 euros et le bijou dans sa vitrine coûte 1500. Il vous donne l'argent et là vous le redonnez et puis vous rajoutez 500. Mais échanger c'est haram. On ne peut pas donner des vieux bijoux pour prendre des nouveaux et rajouter de l'argent. Parce que l'or ne s'échange pas avec des trucs inégaux. Bref, de ma tête là c'est complexe. Mais bref, elle dit, testez le bijoutier. Il n'a même pas, vous avez déjà vu les tests de bijoutiers. Ils ont un petit boîte, il y a deux flacons. Ils prennent quelque chose, ils passent dessus, mettent un deuxième liquide, ils regardent. Et il peut vous dire si c'est 18 carats, si c'est 21 carats, etc. Quel genre d'or, est-ce que c'est pur, c'est pas pur, est-ce que c'est mélangé avec d'autres métals. Il y a un petit truc de chimie, tous les bijoutiers, ils ont ça. Elle dit, quand c'est quelque chose qui est en toc, même si ça brille, même si c'est lourd, elle dit que vous laissez sur la vitrine, il regarde, il vous dit que ça c'est pas de l'or. Il a même pas besoin de toucher, même pas besoin d'analyser, même pas besoin de regarder avec une loupe, rien. Ça c'est qu'on a en arabe ribra, c'est l'expérience. Comme les bijoutiers ont une expérience, ils sont maîtres de leur travail, telle personne, ils sont maîtres de leur profession. Malheureusement, quelqu'un qui est dans le mauvais chemin, il est maître dedans. Il y a des gens qui volent, mais formidablement. Et bien, il y a une fois Madrissa, en classe, il y avait un autre élève qui venait d'avoir un GSM, avec son papa Pouit. Mais cette personne-là n'est pas de mauvaise intention. Hein. Je sais, ce n'est pas des gens qui volent, ces élèves, ils ne volent pas. Mais peut-être qu'ils avaient eu des passés un peu douteux, peut-être. Et subhanallah, pendant le cours, il a réussi à tirer le GSM de la poche de cet élève. Et à 4 heures, le maman est debout et dit, allez au GSM. Mais comment... Personne n'a remarqué. Je suis devant l'élève, je ne vois pas que... En plus, on ne s'assoit pas à terre, donc ils sont devant moi. Je n'ai même pas vu le mouvement. Spécialiste. Malheureusement, dans le hajj aussi, il y a des spécialistes du vol. Ils ont tawfiq pour ça. Ils deviennent maîtres dedans. Une fois, je suis parti acheter shawarma, j'avais de l'argent. Jamais je n'ai pas l'argent dans la poche, mais là, on était parti au Umrah, donc c'était pas pour travailler. Donc, ils disent, bon, voilà, un peu de laisser aller. Et puis, il y avait de l'argent, de commission, quelqu'un, pas beaucoup d'argent. Il a acheté shawarma. Et l'argent était dans une enveloppe, dans la poche. Pas beaucoup d'argent, alhamdoulilah. J'ai senti quelqu'un me bousculer. Je l'ai regardé, j'ai vu c'était qui. C'est très, pas grave. Il a faim, il a besoin de son remarque, paye. Et le chauffeur, c'était des sandwichs. Et quand j'arrive pour payer, voilà, sa poche est pleine. Je dis, comment il a fait? Là, subhanallah, à 20 cm de mes yeux, subhanallah, je suis aveugle à ce point, qu'un moun, il met la main comme ça, il tire, vous ne remarquez pas. C'est-à-dire, en une bousculade, il vous touche à un endroit que vous regardez et voilà. Il y avait mon beau-frère, une fois qu'il était dans le souk avec moi, l'ancien bazar de Madina, les anciens souks, il avait dans sa poche, c'est fini d'absir, hein, si quelqu'un il est fatigué, il était dans le souk, dans les commerces, et il avait dans sa poche un billet de 100 riyals ou 200 riyals, et il avait des mouchoirs. Il était grippé, et il avait des mouchoirs comme ça, pas des mouchoirs neufs, hein, des mouchoirs tout écrasés, la poche remplie de mouchoirs. Un voleur, qu'est-ce qu'il a fait? On était ensemble, à côté. La personne est venue, on n'a rien vu. Et en général, ils utilisent les lames de rasoir, les rasoirs qui ouvrent, hein, les lames comme ça. Vous voyez, ils prennent ça. Il a ouvert sa poche comme ça, il a ouvert une petite fente, c'est des chirurgiens. C'est de la chirurgie. Vous voyez, ils ont raté leur vocation. Il a ouvert ça, il a pris le billet, il a laissé les papiers, il a laissé les mouchoirs, et a pris juste le billet. Alors qu'il faut payer, maintenant il regarde. Il y a mouchoir, il y a papier blanc, il y a facture, il n'y a pas l'argent. Subhanallah, comment il a fait ça? Fort, très fort. Mais c'est pareil. Quand quelqu'un il a choisi son chemin, ben, il s'enfonce, il se spécialise et il reste dedans. Donc, à travers ces quelques, c'est surtout les deux hadiths qu'on a cités, hein, de l'histoire de Chantéti et le hadith d'Omar, on comprend que, hein, à force de faire une action, ça devient une nature. Et on a vu, également, il y a un hadith auquel le Prophète a dit qu'il ne faut pas minimiser les petits péchés. Parce que c'est comme des gens qui sont arrivés dans un endroit et on dit à ces gens-là, il faut ramasser des brindilles pour faire un feu. Chaque personne ramène une brindille. Et à la fin de la journée, chaque personne a amené une brindille et à la fin, il y a assez de bois pour faire un feu ardent. Donc, un petit péché, et à la fin, ça vous fait une vie de petits péchés, ça vous fait des montagnes et des montagnes de péchés. Donc, pour qu'Allah Ta'ala ouvre les portes du tawfiq, Allah nous accepte, il faut faire un premier pas vers Allah, montrer à Allah qu'on a envie de se rapprocher de lui, montrer à Allah qu'est-ce qu'on peut faire pour son dîn, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour sa religion, qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme khidmat avec notre corps, avec nos biens, avec notre temps, etc., pour son dîn, pour rechercher son contentement. Et lorsqu'Allah voit qu'on fait un premier pas, Allah il fait deux pas. Lorsqu'Allah il voit qu'on vient vers lui en marchant, Allah vient faire cette personne en fait. Qu'Allah donne un tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire un mal, de protéger à nos mères et à nos sœurs. Une petite parenthèse, parce que la dernière fois on parlait, parce qu'on va plus aborder le sujet, on parlait des scientifiques, on parlait de la connaissance, c'est hors tafsir, hors sujet, on parlait de la connaissance des scientifiques. Et j'écoutais quelque chose d'une radio très connue, après-midi en allant à Madrissa, et il y avait un débat sur les ondes transmises par les GSM. Il dit que l'OMS a dit que ces ondes-là, pour l'instant, rien ne prouve qu'ils sont néfastes. L'OMS a dit, pour l'instant. Mais ensuite, il dit, regardez comment c'est Hajib. Il a dit, pour l'instant, rien ne prouve que ces ondes sont néfastes, mais nos connaissances dans ce domaine sont encore très faibles. Et donc, il faut attendre. Il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre. Et donc, on se dit que, regardez les scientifiques, ils sont prêts à dire qu'il n'y a pas de Dieu, ils sont prêts à dire que tout a été créé, il n'y a pas de kun fayakun, il n'y a pas la création d'Allah, c'est un hasard, ça s'est passé de telle manière, hein, ils soutiennent la thèse de l'évolution, etc., etc. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Et ils inventent un portable, et ils ne savent même pas que c'est en train de bousiller le cerveau de tout le monde. Vous ne connaissez pas. Regardez l'exemple de l'amiante. Combien d'années on utilisait l'amiante? Dans les vieilles maisons, dans les hauts, la plaine et tout, lorsqu'il y a le parquet dessous, il y a de l'amiante. Vous voyez? Combien d'années on a cru que c'était quelque chose de bien, que c'est isolant, c'est profitable. Maintenant, on découvre que ça donne cancer du poumon. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas. Regardez la science, comment c'est limité. Ce qu'il y a sous leurs pieds, ils sont en train de les tuer. Et ils ne savent pas. Et puis, ils viennent dire que là-haut, dans 1 milliard de kilomètres, là-haut, il n'y a rien. C'est le hasard. C'est comme si. C'est quel ilm, ça, quelle connaissance. Donc, à la fin, on t'a offert de comprendre. Il fait un mal de propager à nos mères. Subhanallah, Rabbika Rabbil 'Izzati 'Amma Yasifun. Salam, on a un musulman, alhamdulillah.